Chapitre 9. Jake était d'humeur maussade. À la réunion du matin au bureau, tous l'avaient traité comme un paria. Il s'était ragaillardi en apprenant qu'il accompagnerait Tony. Celle-ci lui avait demandé de faire croire à Charles, s'il revenait, qu'ils avaient simplement voulu rire à ses dépens et que jamais Jake n'avait couché avec Agatha. Sur le point de partir avec la jeune fille, il reçut un appel de la police qui l'obligeait à se présenter à Scotland Yard à 14h pour y être interrogé sur le meurtre de Toby Cross. Au moment où il s'excusait et quittait l'agence, il surprit un échange de coups d'œil soulagés. Il s'arrêta dans l'escalier, le temps d'entendre Simon dire « Si seulement la police pouvait découvrir qu'il a tué Toby et nous débarrasser de ce sale petit obsédé une bonne fois pour toutes !»«
On croirait que j'ai couché avec Miss Marple !» rumina Jake, furieux, au lieu d'une femme séduisante d'à peine quoi, 50 ans ?»
Il fallait qu'il trouve un moyen de redresser la situation. Il ne s'agissait pas seulement de Tony. Le travail lui plaisait énormément et il avait l'impression qu'il pourrait y réussir. Son visage s'éclaira. Peut-être que s'il se montrait très coopératif avec les policiers, il lui glisserait un ou deux tuyaux sur l'affaire Bellington. Nigel Faraday attendait Agatha en se demandant quel bobard il pourrait lui faire avaler. Il brûlait de se venger. Le coup de téléphone qu'elle avait passé à la police avait conduit à son arrestation, assorti d'un retrait de permis d'un mois.
« Tu devrais oublier cette histoire », lui avait conseillé sa femme. « Je pardonnais un coup de main à la vente de charité de Harby. Ça m'assomme, mais j'ai des trucs dont je veux me débarrasser. Et les vieilles chouettes du village achètent tout et n'importe quoi. »«
Donne-moi plutôt des idées. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire gober pour l'envoyer droit sur une fausse piste ?»«
Et je veux la faire boire au-delà du taux limite. À mon tour de la dénoncer. Et on verra si elle trouve ça drôle. »
Un de mes copains flics du commissariat de Merchester m'a dit qu'un pote à lui l'a aperçu dans la cabine téléphonique quand j'ai repris la voiture ce soir-là.
Tout le monde va se demander pourquoi tu n'as pas ouvert la kermesse cette année. Damien a refusé, si bien qu'il se retrouve avec Lady Bellington qu'ils ne peuvent pas voir en peinture.
Eh bien, raconte-leur que je sais qui a assassiné Bellington et que je me suis rendu dans le plus grand secret à un rendez-vous avec Agatha au Green Man sur la route de Glimpton pour le lui révéler. Autant exciter un peu tous ces péquenots, et peut-être que quelqu'un me fera le plaisir de la liquider.
« Que de temps perdu pour une petite vengeance minable !» s'irrita sa femme.
« Oh, ces hommes ! De vrais gamins !»
Agatha n'arrivait pas à trouver le Green Man et commençait à soupçonner Nigel de lui avoir joué un mauvais tour. Après avoir frappé à plusieurs portes, elle tomba sur un vieillard qui l'informa que le café avait été rebaptisé quelques années auparavant « The Hen and Basket ». Enfin parvenue à destination, elle se gara devant l'établissement, mais éprouva une brusque réticence à rejoindre Nigel. Elle quitta sa voiture sans aucun empressement. Sur le parking, le vent faisait grincer deux des branches d'un grand arbre l'une contre l'autre, avec un son sépulcral qui évoquait irrésistiblement la lente ouverture de la porte du château de Dracula. Elle se dirigea vers un panneau qui indiquait « Lounge Bar », descendit quelques marches et franchit le seuil. Le pub avait gardé son décor à l'ancienne avec un bon feu de bois et des banquettes à haut dossier qui formaient des boxes autour des tables. Elle se prit soudain à penser à Charles. Elle avait presque l'impression qu'il était debout à côté d'elle. Elle écarta cette idée et passa en revue les différentes tables. Quatre hommes occupaient l'une d'entre elles, un couple d'un certain âge était assis à une autre et c'était là toute la clientèle.
J'avais rendez-vous ici avec un certain Mr. Faraday. Je m'appelle Agatha Raisin. Personne ne m'a réclamé ?
Demanda-t-elle au patron qui tenait le bar.
Non, personne de ce nom.
Donnez-moi un gin tonic.
Je suis désolée, nous n'avons pas de glace. Notre congélateur est en panne. Mais le tonic sort du réfrigérateur.
C'est parfait.
Agatha emporta son verre et s'installa près du feu. Dehors, le vent forcissait. Des faines de hêtre, balayées par une rafale, cinglèrent soudain la vitre. Agatha tressaillit. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Il ne lui avait fallu qu'un peu plus d'une heure pour venir de Gloucester. La banquette, très ancienne, était aussi très dure. Peut-être provenait-elle d'une église. Les pêcheurs, le dimanche, n'étaient pas censés s'y reposer confortablement. Comme s'il lisait dans ses pensées, le barman lui apporta un coussin.
« J'ai oublié de vous le donner. Les habitués m'en réclament toujours un. Un autre gin ?»
Agatha en avait fort envie, mais elle se demanda tout à coup si ce n'était pas le but du jeu. Peut-être Nigel comptait-il la rejoindre quand elle aurait dépassé la limite afin de la signaler à la police.
Un café noir, plutôt.
Vous voulez déjeuner? Nous avons de la tourte à l'agneau et au poireau, et ça part très vite.
Mettez-moi une part de côté.
Agatha commençait à se détendre. Elle se pencha sur le problème de Jake. Après tout, Charles n'avait aucune preuve. Elle allait prendre Jake entre quatre yeux et leur dire à tous que ce n'était qu'une plaisanterie. Du genre, si vous aviez vu vos têtes, et tout le discours habituel.
Mais ce n'est vraiment pas juste, maugréa-t-elle intérieurement. Quand un type de mon âge couche avec une petite jeune, tout le monde l'envie. Dans le cas contraire, une femme fait figure de chien en chaleur. Et l'émancipation des femmes, alors? Encore une de ces belles idées, comme l'Union européenne, qui ne cesse de se déliter par tous les bouts.
Et ce fichu bonhomme, que fabriquait-il donc?
Elle appela Tony pour lui indiquer où elle se trouvait et lui communiqua le nouveau nom du pub. Elle fut soulagée d'apprendre par Tony qu'ils avaient tous conclu qu'elle n'avait pas passé la nuit avec Jake et qu'il le dirait à Charles. Charles, quant à lui, était à Merchester quand il entendit sur la BBC l'émission d'Agatha. Il se rendit à l'agence où Tony lui apprit qu'Agatha attendait Faraday dans un pub de Glimpton de Hen and Basket.
Excusez-nous, ajouta-t-elle gauchement. Nous n'aurions pas dû vous laisser croire que Jake avait passé la nuit avec Agatha. Ce n'était pas vrai.
Mieux vaut que j'aille faire un tour à ce pub, déclara Charles, après avoir scruté un instant le visage de la jeune fille. Dieu sait ce qu'elle a encore mis en branle. La route de Glimpton n'est qu'à une demi-heure d'ici.
Nigel Faraday n'ignorait pas qu'il était en retard. Un de ses pneus avait crevé et, faute de savoir le changer, il avait dû attendre une dépanneuse. Il appela Agatha pour la prier de patienter encore. Et avec un peu de chance, avec un petit coup de trop dans le nez maintenant, songea-t-il en ricanant. Il fut très contrarié de découvrir que le pub avait changé de nom. Il avait bien connu l'ancien propriétaire du Greenman, qui, moyennant une bonne gratification, se serait fait un plaisir de servir à Agatha des boissons très corsées. Comme la plupart des gens, un peu trop portés sur la bouteille, Nigel se figurait qu'Agatha aurait autant de mal que lui à s'arrêter une fois qu'elle aurait commencé. Il se gara sur le parking et descendit. Ce fut alors qu'il aperçut un visage familier.
« Que diable faites-vous ici ? » s'exclama-t-il.
« Remontez en voiture. J'ai quelque chose à vous dire. Ça ne prendra pas plus d'une minute. »
Avec un froncement de sourcils, Charles repéra la grosse Bentley noire sitôt qu'il pénétra dans le parc de stationnement. Faraday avait dû arriver à l'instant, il était encore assis derrière son volant. Une violente bourrasque fit tourbillonner dans les airs un nuage de feuilles multicolores. L'arbre, aux branches torturées, émit un gémissement d'outre-tombe. Charles, en gagnant l'entrée du pub, jeta soudain un regard en arrière. Faraday ne s'était tout de même pas endormi. Il alla frapper à la vitre du conducteur. Nigel, les yeux fermés, reposait contre le dossier. D'un geste impatient, Charles ouvrit brusquement la portière. Un corps sans vie s'effondra à ses pieds. « Les forces de l'ordre, déclara Charles plus tard, sont pareilles aux meules divines qui, d'après Euripide, tournent lentement et produisent une mouture extrêmement fine. Et Agatha, qui détestait les citations littéraires avec toute l'ardeur des gens peu éduqués, lui ordonna de cesser ses divagations. » Ils étaient assis côte à côte dans la salle d'attente du commissariat central de Merchester, après avoir subi d'interminables interrogatoires préliminaires à Chipping Norton.
« Je voudrais bien qu'il découvre comment il a été tué !» gémit Agatha. « Cela fait des heures qu'il garde sa femme !»«
Ils ont horreur de nous donner des informations !» remarqua Charles sombrement. « Les journalistes se sont massés sur le parking. Je me demande si l'un d'eux a pu s'entretenir avec sa femme. » Après tout, personne ne nous a défendu de leur parler. Écoute, je vais me faufiler dehors. Tu prétendras que je suis aux toilettes. Ils ne savent rien de rien,
annonça-t-il en rentrant au bout de 10 minutes.
Il faudra que tu demandes à Patrick s'il peut glaner quelques tuyaux après l'autopsie.
Agatha ne supportait plus l'humeur noire de Charles.
Tu m'as accusé d'avoir passé la nuit avec Jake,
lança-t-elle soudain.
Ce n'est pas vrai.
Si tu le dis, ce n'est pas mon affaire.
Dans ce cas, pourquoi t'es-tu pointé au bureau pour me le reprocher?
Écoute, Aggie, regardons les choses en face. Il y a toujours eu un peu plus que de l'amitié entre nous, n'est-ce pas?
Oui, murmura Agatha, le souffle court.
Vois-tu, poursuivit-il avec un petit rire gêné, le plus drôle, c'est que je fréquente depuis quelque temps quelqu'un dont je suis terriblement amoureux. Et du coup, je me sens déloyal envers toi. C'est fou, non?
Complètement. Changeons de sujet.
Alors, ça ne t'ennuie pas?
Pourquoi cela m'ennuierait-il? Tu as eu des amourettes ces dernières années, et moi aussi. Mais Agatha avait l'impression d'avoir subi une brutale descente dans un ascenseur trop rapide. Pour Jake, elle ne représentait rien de plus que quelques galipettes en passant. Pour Charles, une compagne de lit occasionnelle. Personne ne tenait véritablement à elle. La gorge serrée, elle fut prise d'un accès de tristesse et elle eut peur de ne pas pouvoir retenir ses larmes. Elle accueillit avec soulagement l'arrivée de Bill Wong.
« Vous pouvez y aller », leur annonça-t-il. « Mais il y aura sans doute de nouveaux interrogatoires prochainement. Et Wilkes vous défend de parler à la presse. Je dois vous faire sortir par derrière. »
« Mais nos voitures sont devant, sur le parking !»
protesta Charles. « Donnez-moi vos clés et je vais vous les faire amener par deux agents. »
Ils lui remirent leurs clés de mauvaise grâce. Patrick pénétra dans la pièce juste au moment où Bill la quittait.
« Retrouvez-moi au Jolly Farmer de l'autre côté de la place, » leur glissa-t-il. « Il y a du neuf !»
Bill aurait bien dû se douter que les journalistes suivraient tout simplement les voitures derrière le commissariat. Agatha tint donc une conférence de presse sous le regard furibond de Wilkes, posté à une fenêtre de l'étage. Quand Agatha eut fini, ils semèrent leur auditoire en rentrant dans le commissariat, qu'ils retraversèrent au pas de course avant de gagner le Jolly Farmer par de petites rues. Patrick les attendait en tête à tête avec une pinte de bière.
« Il aura toujours l'air d'un flic », songea Agatha. Et pourtant, cela fait un moment qu'il travaille comme détective.
De son visage, au port dilaté, jusqu'à ses chaussettes sombres et ses chaussures noires admirablement cirées, tout en lui trahissait l'ex-policier.
« Alors qu'avez-vous appris ?» demanda vivement Agatha, sitôt qu'ils furent attablés devant leur consommation.
« Ce que j'ai appris, c'est la raison pour laquelle il a été tué. Il avait l'intention de vous rejoindre au pub, à Glimpton, de vous pousser à boire et ensuite de vous faire arrêter pour conduite en état d'ébriété.
« C'est bizarre cette formule, boire ou conduire ?» commenta Agatha. « Ça devrait être boire de l'alcool ou conduire. J'aurais très bien pu prendre une limonade, par exemple, et...
« Oh, ferme-la une minute, Agatha !»
coupa Charles. « Qu'avez-vous découvert, Patrick ?»
Sa femme était invitée à ouvrir la vente de charité à Harby.
Elle n'a pas dit qu'il était allé à Osbury pour essayer de vous faire arrêter, Agatha. Elle a raconté à tout le monde qu'il était parti vous révéler le nom du meurtrier. Il avait dit à sa femme que ça exciterait un peu tous ses manants. « C'est curieux, plus les gens sont bas dans l'échelle sociale, plus ils sont snobs », conclut vertueusement Patrick.
« La police s'est donc trompée en imputant sa mort à une crise cardiaque ?» constata Agatha. « Qui assistait à la vente de charité ?»«
Tout le village de Harby et une bonne partie des gens du château. »
Agatha étouffa un bâillement. « Je suis fatiguée, je rentre chez moi réfléchir à tout ça. »
Quand Charles et Agatha eurent rejoint leurs véhicules respectifs, Charles se retourna et la serra quelques secondes dans ses bras. Immobile à côté de sa voiture, Agatha le regarda démarrer et s'éloigner en se demandant pourquoi elle se sentait tellement esselée et brûla soudain d'envie de voir la femme qui avait ensorcelé Charles. Elle décida de prendre un jour de congé le lendemain pour tenter de l'apercevoir. Jake l'attendait sur le seuil de sa porte.
« Ah, pour l'amour du ciel, espèce d'obsédé !» s'écria-t-elle. « Ce n'est pas ce que vous croyez !»
l'interrompit-il.
« J'ai passé la majeure partie de la journée à Scotland Yard.
L'affaire des diamants ?»«
Oui. Entrez, mais essayez d'être rapide, je suis fatiguée. »
Une fois Jake installé devant la table de la cuisine, il expliqua.
« C'est top secret. L'ambassade de Malimbi a sorti un assassin de sa manche, mais prétend l'avoir transféré en Malimbi pour le faire juger par les tribunaux locaux. »
La police britannique ne va sûrement pas permettre ça.
Les Malimbiens disent que Toby se servait de leurs meubles pour convoyer les diamants aux contrebandiers de l'ambassade.
Je ne piche toujours pas.
On a trouvé du pétrole en Malimbi.
Je commence à comprendre.
Mais pourquoi vous ont-ils convoqué?
Ça n'a rien de flatteur. Nous sommes tous tenus au secret, mais vu mon âge et la réputation que mon père m'a faite, ils me considèrent comme un individu complètement irresponsable, et ils m'ont menacé des pires représailles si jamais j'ouvrais la bouche.
Bon, merci de m'avoir mise au courant. J'ai passé une journée épouvantable.
Elle lui narra les derniers développements.
Mais ça va aller, n'est-ce pas ?
S'inquiéta Jake.
Je survivrai, assura Agatha avec un haussement d'épaule.
Il y a un détail d'importance. J'ai dit à Charles qu'il ne s'était rien passé entre nous. Tout le monde pense qu'il ne s'est rien passé, donc maintenant l'épisode est clos. Parce que je ne suis qu'un épisode. Oui. Et j'y ai mis le point final. Et maintenant, oust !
Quelle excuse invoquée pour m'offrir un jour de congé, se liloqua Agatha après le départ du jeune homme, assise à même le sol, en caressant la fourrure soyeuse de ses deux chats qui s'étaient levés sur ses genoux. L'ennui, c'est que si je raconte que j'ai un rhume, je suis sûre d'en attraper un. La poisse habituelle. Oh, je n'ai qu'à dire tout simplement que je veux prendre ma journée. Pas besoin de prétexte.
Quand vint le matin, Agatha commençait à penser qu'espionner Charles manquait franchement d'élégance. Mais la curiosité l'emporta. Toute la difficulté était de procéder sans se faire repérer par un tiers. En ville, on pouvait filer autrui sans attirer l'attention. Mais à la campagne, où la circulation était beaucoup moins dense, on n'était que trop visible. L'entrée de sa propriété se trouvait à l'embranchement de deux routes, dont l'une menait vers l'est et l'autre vers l'ouest. De la fumée montait de la cheminée de la maison du gardien. Agatha se souvint que Charles n'avait pas de gardien, mais louait le pavillon à un couple. Elle se sentit trop exposée et poursuivit son chemin. Quand elle se fut suffisamment éloignée, elle se rangea sur le bas-côté et composa le numéro de Charles. Par chance, ce fut lui qui répondit. D'ordinaire, il laissait ce soin à Gustave, son valet.
« Je vais faire quelques courses à Stratford vers midi, » annonça-t-elle. « Ça te dirait de déjeuner avec moi ?»«
En fait, j'ai rendez-vous avec Olivia. Tu sais, la fille dont je suis fou. Nous serons au Golden Gander à 1 heure. Tu pourras nous y rejoindre. »
« Oui, parfait, merci, » acquiesça Agatha d'un ton morne. Jamais encore, Charles ne lui avait paru si animé ou si heureux. « Mais à quoi diable joues-tu ? » fulmina la petite voix intérieure. « Il n'est pas à toi et ne l'a jamais été. »
Agatha ne voulait pas reconnaître que, tout au fond d'elle-même, elle caressait le rêve de finir sa vie aux côtés de Charles. Son téléphone sonna. C'était de nouveau Charles.
« James est rentré, » lui dit-il. « Alors je l'ai invité aussi. Comme ça, Olivia fera connaissance avec mes deux plus vieux amis. À tout à l'heure !»
Je ne savais même pas que James était de retour, songea Agatha. Quand je pense à l'époque où je languissais et me consumais de désir pour lui, il me laisse de marbre à présent. Je ne ressens pas le moindre frisson érotique. Elle consulta sa montre. Il n'était encore que 10 heures. Elle avait le temps de fourbir ses armes pour la bataille. Agatha arriva au restaurant maquillée par la meilleure esthéticienne de la ville. Fraîchement lavée, sa chevelure brillait. Elle portait un long manteau de fausse fourrure écarlate sur un tailleur pantalon de cachemire vert foncé et des bottes de daim noir à talons hauts. James et Charles, déjà installés, se levèrent tous les deux pour l'accueillir. « Tu es resplendissante, Agatha, » complémenta James en lui faisant la bise. « Alors, est-ce que les ragots du village disent vrai ? Tu as été séduite par un jeune Adonis ?»«
J'aimerais bien. Charles, où est la belle Olivia ?»«
En retard comme d'habitude, je pense. » Ah, la voilà!
Les deux hommes se levèrent. Charles avança une chaise pour Olivia qui prit place en face d'Agatha. La jeune fille était abasourdie. Elle s'était toujours figurée Agatha, en écoutant les récits de Charles, comme une femme boulotte au visage dur. Elle ne s'était nullement attendue à cette créature brillante et sophistiquée. Olivia avait 28 ans. Elle avait fait ses débuts lors de la dernière saison mondaine, ce qui lui avait beaucoup plu. Ses parents avaient déboursé près de 120 000 livres pour cela. Naturellement, il ne s'agissait plus d'y trouver un mari. Travailler était bien vu, les œuvres caritatives extrêmement prisées. Elle avait fait du secrétariat pour un magazine de mode, mais avait démissionné la semaine précédente parce que la rédactrice en chef s'était permis de lui crier dessus. Olivia ne considérait peut-être pas la saison mondaine comme une chasse au mari, mais ce n'était nullement l'avis de ses parents. Jeremy et Beverly Huntington, des gens vieux jeux qui se plaignaient déjà de ne pas avoir de petits-enfants. Charles était un don du ciel. Certes, il avait la quarantaine bien sonnée, mais il possédait un domaine florissant. Quant aux Huntington, ils étaient extrêmement riches et ils avaient fait fortune dans le commerce du thé, ce qui était tout à fait convenable, le négoce du thé et de la bière ayant toujours été de bon ton. Le grand regret de Jeremy Huntington était que son grand-père n'eût pas jugé utile de graisser la patte de Lloyd George, le premier ministre de l'époque, pour se faire anoblir. Mais Olivia, une fois les noces célébrées, serait Lady Fraisse, ce qui lui mettait du baume au cœur. Malheureusement, Olivia était enrhumée. Elle avait le nez rouge et elle était engoncée dans un gros pull irlandais à torsade qu'elle portait avec un jean et des bottillons plats. Son visage était encadré de longs cheveux raides, décolorés en blond, dont elle rejetait parfois une partie dans son dos d'un brusque mouvement de tête, ce qui contraignit James à se garer précipitamment. Elle prononçait tous les mots à l'identique, avec une nonchalance affectée, d'une voix haut perchée et traînante. Naguère, Agatha se serait sentie intimidée et aurait redouté que son taudis originel de Birmingham ne transparaisse sous son vernis d'élégance. Pourtant, cette fois-ci, elle n'éprouva qu'une soudaine tristesse. Elle voyait bien que Charles n'était attiré que par la fortune d'Olivia et rien d'autre. Elle avait oublié que Charles était cupide et vouait un profond attachement à sa demeure ainsi qu'à ses terres. Cela l'avait souvent intriguée, car après tout, son affreux castel victorien pouvait difficilement passer pour un joyau du patrimoine national. Agatha avait prévu de rivaliser avec Olivia, de discourir, de fanfaronner et de l'éblouir. Au lieu de quoi, elle lui recommanda un traitement efficace contre le rhume et offrit de faire jouer une relation bien placée à la rédaction de Fab Flash, une femme formidable qui pourrait éventuellement embaucher Olivia si celle-ci souhaitait un nouveau poste dans un magazine de mode. Seul Charles, qui les observait toutes deux d'un œil perspicace, devina qu'Agatha avait percé à jour ses motifs et qu'elle avait en fait pitié de la pauvre fille. Le téléphone d'Agatha sonna au milieu du déjeuner. James, tout heureux, était en train d'évoquer ses souvenirs militaires car le père d'Olivia avait servi dans la garde royale. Agatha s'excusa et s'éloigna un moment. C'était Tony. « Mrs. Friedman est malade. Elle a attrapé un zona, la pauvre. Est-ce qu'il faut recruter une intérimaire ?»«
Oui, » répondit Agatha.
« Quoique, non. J'aurais peut-être quelqu'un. Je vous rappelle. »« Ma secrétaire est absente, elle a un zona, » expliqua-t-elle à Olivia en se rasseyant. « Oh, quelle horreur, vraiment !» répondit celle-ci. « Ma grand-mère en a eu un, sur tout un côté du visage. » « Si vous ne vous sentez pas trop mal, pourriez-vous éventuellement me dépanner ?»«
Quelle chance !» s'exclama Olivia.
« Charles, c'est merveilleux, n'est-ce pas ? J'adorerais voir les coulisses d'une agence de détectives !» James considéra avec perplexité son ex-épouse. Pourquoi Agatha adoptait-elle littéralement cette fille ? Et pas une once de jalousie chez elle ? Après le déjeuner, qu'à la grande surprise de tous, sauf d'Olivia, Charles régla de ses deniers, Agatha convia sa protégée à l'accompagner à Mercer. Une fois dans le parking, elle la fit monter dans sa voiture, sortit une trousse à maquillage ainsi qu'un miroir grossissant et lui assura qu'elle se sentirait mieux avec un peu de fond de teint et de rouge à lèvres. Olivia pénétra dans l'agence à la suite d'Agatha. La toute première personne qu'elle aperçut fut Jake assis à son bureau. Elle en resta une seconde bouche bée. Puis lança, sans laisser à Agatha le temps de faire les présentations.
« Bonjour, je suis Olivia, la secrétaire intérimaire. »«
C'est exactement ce que tu avais escompté, » fit sardoniquement la conscience d'Agatha. « Fiche-moi la paix pour une fois !» aboya Agatha, qui s'empourpra en découvrant qu'elle avait parlé tout fort. « Désolée, » s'excusa-t-elle en enlevant son manteau. « Je pensais à autre chose. »« Patrick, y a-t-il du neuf à propos de la mort de Faraday ?»
« Rien encore, mais on m'a dit que le médecin légiste avait trouvé la marque d'une piqûre sur son bras. »
Il n'aurait certainement pas laissé n'importe qui monter à côté de lui dans sa voiture et lui planter une seringue dans le bras, non? Ce devait être quelqu'un qu'il connaissait. « Tony, cherchez des renseignements sur sa femme. Jake, pourriez-vous installer Olivia au bureau de Mrs. Friedman? Le contrôleur des impôts s'est annoncé. Vous avez des notions de comptabilité, Olivia?
J'ai mon diplôme d'expert comptable. »
Alors pourquoi faisiez-vous la beniche dans un magazine de mode?
Ça paraissait ultra séduisant vu de l'extérieur, mais en réalité, c'était l'enfer.
Avec un léger sentiment de culpabilité, Agatha se réjouit d'avoir eu la main si heureuse. La pauvre Mrs. Friedman était perpétuellement dépassée par toutes les questions fiscales. Agatha avait certes recours à un cabinet d'experts comptables chevronnés, mais Mrs. Friedman ralentissait toujours tout en voulant s'en mêler, ce qui valait à Agatha bon nombre de pénalités de retard. En fait, pensa Agatha, Mrs. Friedman ne servait pas à grand-chose comme secrétaire. Mais comme disait Phil, avec sa gentillesse habituelle, « C'est la cinquième roue du carrosse, mais c'est notre roue !»
Jake retrouvait en Olivia un type de fille bien connue et rassurant. Il avait pris part à de nombreux événements mondains de la saison londonienne, et le style d'Olivia, longs cheveux blonds et raidis par les brushings et belle carrure de cavalière, lui était familier. De plus, il venait d'essuyer une cuisante rebuffade de la part de Tony et en était encore profondément vexé. Ils avaient retrouvé une enfant disparue qu'ils avaient ramenée à ses parents éplorés, lesquels en avaient pleuré de reconnaissance. Avec son efficacité coutumière, Tony avait veillé à ce que les retrouvailles se déroulent devant la presse locale. Jake avait profité de ce moment d'euphorie pour empoigner Tony et l'embrasser. Il aurait pu, à la rigueur, s'en tirer sans dommage, s'il n'avait pas jugé nécessaire de lui plonger sa langue jusque dans la gorge. Et Tony, devant les parents et la presse, l'avait repoussé avec fureur. Le principal problème de Jake, et son père en était bien conscient, était qu'il s'enthousiasmait pour chacun de ses nouveaux postes, puis s'enlaçait brusquement. Il savait que sa famille était très riche, qu'il n'avait pas réellement besoin de gagner sa vie, et il n'aimait rien tant que flâner à Londres. Il eut soudain la nostalgie de la capitale. Il avait pris part à bon nombre d'événements mondains de la saison, car son père espérait qu'il rencontrerait une fille convenable, qui lui mettrait un peu de plomb dans la cervelle. Il n'avait réussi qu'à rouler sous la table à toutes les réceptions et à faire chavirer une embarcation aux régates de Henley. À la fin de la journée, il proposa à Olivia de la raccompagner chez elle. Elle avoua à regret qu'elle avait sa propre voiture. Encore humiliée d'avoir été rabourrée par Tony et en manque d'adoration féminine, Jake l'invita à dîner. Olivia accepta. Elle aurait donné cher pour se trouver à Londres, où elle aurait pu parader devant ses amis escortée par cet Adonis. Jake choisit un restaurant chinois. Il aurait préféré l'emmener au Georges, mais il n'en avait pas les moyens. Au fil de la conversation, ils s'aperçurent que Londres leur manquait à tous les deux, et Olivia expliqua qu'elle y avait son propre appartement, dans Pond Street. « Mais alors pourquoi vous enterrez ici ?» demanda Jake. « Mes parents ont découvert que notre voisin, Charles Fraisse, était célibataire. Je pense qu'ils sont en train d'arranger un mariage. Quoi ? Et vous vous laissez faire ? Une fille sublime comme vous ?» s'exclama Jake. Olivia sentit son rhume battre en retraite, tandis qu'une douce chaleur envahissait tout son corps. Personne ne l'avait jamais qualifiée de « fille sublime ».
« Oh, vous savez bien ce que c'est, » répondit-elle. « Il n'y avait pas d'autres candidats, et mes parents ne cessent de ressasser qu'ils n'ont toujours pas de petits-enfants et que notre lignée va s'éteindre. Charles est mignon. »«
D'accord, il est bien plus vieux que moi, et son château est vraiment hideux. En plus, il a une espèce de majordome, un certain Gustave, qui a vraiment de quoi vous donner la chair de poule. » Une espèce de Suisse, tout droit sorti de la famille Adams.
Mais vous n'êtes pas fiancée ?
Non. Peut-être que je devrais laisser tomber Agatha et retourner à Londres pour réfléchir sérieusement. Quand je suis loin de ma famille, j'y vois plus clair.
Ce que j'aimerais venir avec vous.
Pourquoi pas ? J'ai une chambre d'amis. Ça alors, c'est trop drôle. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Agatha ?
Rien du tout. J'ai les clés de l'agence. On n'a qu'à retourner les déposer sur son bureau, avec un petit mot. Je vous dirai que je retourne chez papa et vous, que votre rhume s'est aggravé et que vous êtes trop malade pour travailler.
On se retrouve à Londres. Voilà mon adresse. La tête que vont faire mes amis !
Agatha trouva le message de Jake le lendemain matin et se félicita de lui avoir pris seulement un appartement à la semaine dans une résidence-service. Elle ne penserait désormais plus à Jake que comme une perte de temps suprême. De toutes les pistes sur lesquelles elle s'était fourvoyée, Jake remportait la palme. Tous les meurtres étaient plus ou moins liés au départ. Celui de Toby Cross n'avait aucun rapport. Agatha découvrit ensuite le petit mot d'Olivia, lâcha un juron et appela l'agence d'intérim. Après quoi, elle s'assit avec une horrible grimace.
Seraient-ils partis ensemble ?
Elle fut soudain prise d'un vif remords. Il fallait absolument qu'elle cesse de s'immiscer dans la vie de Charles. Elle avait beau être sûre, connaissant sa cupidité, qu'il était seulement appâté par la fortune familiale d'Olivia, il lui avait paru sincère. Elle soupira. Elle allait retourner chez Jenny Coulter, puis à Harby. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était continuer à fureter en tous sens. Mrs. Bull, toujours à l'hôpital,
soutenait sans faiblir qu'elle n'avait pas le moindre souvenir de son agresseur. Agatha fut tentée de demander à un de ses collaborateurs de l'accompagner, car elle mourait d'envie d'avoir de la compagnie, mais il y avait beaucoup de travail à l'agence. Elle chargea donc Tony de répartir les missions à sa place et partit seule rendre visite à Jenny Coulter.